France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
Le débat écho du vendredi avec Thomas Porcher, Dominique Seux. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous allons revenir sur les annonces de Bruno Le Maire à propos des finances publiques. Le ministre indiquait que les 10 milliards d'économies d'ores et déjà décidées pour cette année devront peut-être être complétés par d'autres coupes l'été prochain, puis par plus de 20 milliards d'économies dans le budget 2025, et il le justifie par le ralentissement de la croissance. Je cite Bruno Le Maire, j'ouvre les guillemets, « La France est accro à la dépense publique depuis un demi-siècle et puise dans ses réserves vitales pour financer son addiction ». Je ferme les guillemets. Thomas Porcher, est-ce que c'est la bonne manière de présenter les choses? La France est un drogué en manque.
Non, absolument pas. Et moi, je suis assez choqué qu'un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, délégitime de cette façon l'action publique. C'est pas son rôle. Normalement, il devrait plutôt expliquer en quoi les services publics ont une utilité et en quoi même l'impôt a une utilité.
Mais il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a absolument pas de problème. Le vrai problème, en fait, il vient du fait qu'on a augmenté les taux il y a 2 ans, ce qui a plombé l'activité. Et effectivement, quand l'activité se plombe, tous les indicateurs comme les déficits publics en pourcentage de PIB ou la dépense publique en pourcentage du PIB augmentent. Et la pire des choses qu'il y a à faire dans cette situation-là, c'est ce que fait Bruno Le Maire, c'est de faire des économies parce que vous plombez encore plus l'activité.
Ça, on va y revenir et on va prendre les sujets et les sujets qui vont subir ces coupes les uns après les autres. Dominique Seux, dérapage, désastre, quelle est la bonne manière de présenter les choses?
C'est le job du ministre des Finances d'alerter sur la situation des finances publiques ou au moins de s'intéresser au sujet.
Mais les métaphores ont un sens.
Les métaphores ont un sens. Je suis ces sujets depuis quand même assez longtemps.
Oui.
Je ne sais pas si je dois dire que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, je me demande si ce n'est pas la première fois que je ressens que la France est en train de perdre le contrôle de ses finances publiques. Je pourrais vous assommer sous beaucoup de chiffres, j'en ai des masses en tête. Mais il y en a un qui me paraît important. En 2020, au moment de la crise du Covid, c'est-à-dire la plus grosse récession de l'après-guerre, le déficit public était à 9% du PIB. En 2023, après une reprise exceptionnelle en 2021, et une année qui n'est pas en récession, nous allons être à plus de 5%. Plus que la quasi-totalité des pays européens, avec des dépenses publiques qui sont les plus élevées, les prélèvements obligatoires qui sont les plus élevés. Est-ce que nous avons perdu le contrôle des choses? Je pense que oui.
Thomas Porcher.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que le discours que vient de dire Dominique, et même l'interview qu'a fait Bruno Le Maire au Monde, ça aurait pu être la même que celle que Macron aurait fait quand il était ministre de l'économie, et le discours que vient de dire Dominique est le même que nous avons entendu depuis plus d'une dizaine d'années, où attention, il fallait pas que la dette publique dépasse les 100%, sinon on allait être mangé par le grand loup, un loup qui n'existe pas d'ailleurs, puisqu'elle a dépassé les 100%, nous avons toujours pas été mangés, on nous bassine toujours du même discours. Toujours du même discours. Là, on nous dit qu'il faut faire 10 milliards d'économies. Alors, les dépenses, elles avaient été inscrites dans le budget. Maintenant, elles sont inutiles du jour au lendemain. Et vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît, y compris les grandes banques, que la politique budgétaire que nous menons a un impact sur l'activité. Les États-Unis ne font pas la même chose.
Mais partons de ce chiffre.
La comparaison avec les États-Unis a très peu de sens.
Et on va en parler, Dominique Seux, dans une seconde. Mais j'aimerais d'abord savoir, en fait, si vous êtes convaincu que 30 milliards d'économies au total, c'est beaucoup trop, Thomas Porcher, et ensuite on arrivera aux États-Unis.
Vous savez, quand François Hollande, en 2013, pour financer le CICE, il a fait 10 milliards d'économies sur les collectivités locales. Il a dit, oh mais ça va être indolore, on a plus de 1000 milliards de dépenses publiques, ça va être indolore, personne ne va le sentir. Mais en fait, tout le monde l'a senti. Le périscolaire l'a senti, les crèches l'ont senti, la culture l'a senti, le sport l'a senti dans les collectivités locales. Des villes parmi les plus pauvres ont vu les budgets de l'État qui ont été divisés par deux. Et je vous garantis qu'ils l'ont senti. Donc là, les 30 milliards, il y a toujours quelqu'un qui va le sentir au final. C'est jamais indolore.
Dominique Seux.
Alors deux choses. La première chose, c'est que les dépenses publiques ont augmenté de 300 milliards d'euros depuis 2017. Est-ce qu'on peut dire que la félicité règne en France davantage? Non.
On voit bien que ça n'est pas. À cause de circonstances exceptionnelles.
Ça n'est pas
COVID,
une question de volume, d'ampleur des
Ukraine.
Dépenses publiques. C'est une question d'organisation et d'efficacité. On peut avoir les dépenses publiques les plus élevées, donc des pays développés, et on voit bien que ça ne suffit pas à assurer une bonne qualité des services publics. L'exemple, le meilleur exemple, c'est l'éducation. Nous avons des dépenses d'éducation supérieures à la moyenne de l'OCDE, mais des salaires des enseignants inférieurs à la moyenne de l'OCDE. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Je pourrais donner 1000 exemples. La prime rénov, des crédits ont été supprimés. Parce que c'est pas une question de crédit, c'est une question, on a changé, l'État, le gouvernement, a changé 4 fois de politique sur la prime rénov, c'est-à-dire les subventions à, aux pompes à chaleur, etc., oui. à l'isolation des bâtiments, il a changé 4 fois en 6 mois de politique, la comparaison avec les États-Unis. J'ai entendu Eric Coquerel, le président de la commission des finances, insoumis, vanter le modèle américain. D'abord, ça m'a beaucoup amusé, et ensuite, ça n'a aucun sens.
Les États-Unis creusent le déficit public pour financer différents projets.
L'argument qu'on entend souvent, c'est ils ont de l'art, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est pas le bon argument. Le bon argument, c'est que leurs investissements, en ce moment, c'est l'IRA, c'est-à-dire c'est l'Inflation
Reduction Act.
C'est pour l'investissement. Le CHIPS Act, c'est pour l'investissement. Nous, ce sont les dépenses sociales.
Les puces, les semi-conducteurs.
Et sur les États-Unis, quel est le taux de prélèvement obligatoire aux États-Unis? 25%. Ouais. Donc, en fait, ça n'a rien à voir comme modèle.
Ouais. Alors, Thomas Porcher.
Alors, la première des choses, dans la dépense publique, vous avez une grosse partie qui finance les services publics et une partie qui finance des prestations sociales. Quasiment 60%, ce sont des prestations sociales. Ces prestations sociales qui sont données aux chômeurs.
Vous pensez à l'allocation chômage, retraite, paiement des fonctionnaires.
Ces prestations sociales, elles finissent où? Elles finissent pas dans des comptes en Suisse. Elles finissent dans l'activité, dans des achats, et elles profitent majoritairement au secteur privé. La deuxième partie, celle qui finance les services publics, cette partie-là, force est de constater qu'elle est stable depuis 78, elle a 18% du PIB. Donc notre dépense publique, en réalité, c'est majoritairement des prestations qui finissent dans l'activité privée. La deuxième des choses...
Ça, ce sont des dépenses traditionnelles, comme on dit.
De services publics...
Non, mais ce que veut dire Thomas Porcher, et il a raison, c'est que...
Vous faites son interprète
Oui. C'est que sur, sur l'État lui-même, les fonctions régaliennes de l'État, on n'est pas avec des moyens plus élevés qu'ailleurs,
depuis
la police, par exemple.
Voilà. La deuxième des choses, et là, je suis en désaccord avec Dominique Seux sur les États-Unis, c'est-à-dire que quand vous retirez l'investissement public du calcul du déficit français, la France redevient en excédent. C'est-à-dire que notre dette ne finance pas des dépenses
mais
courantes.
Mais comment est-ce que vous faites ça?
Vous retirez l'investissement public du déficit et là, vous avez un excédent. C'est-à-dire que notre dette ne finance pas des dépenses courantes, elle finance majoritairement de l'investissement public également. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que là, il y a toujours un angle mort dont
elle
on ne parle pas.
Elle finance aussi la masse salariale de la fonction publique.
Elle finance des prestations sociales.
Si vous retirez l'investissement public du calcul des déficits, il y a un excédent. Ce qui veut dire qu'une grosse partie de notre dette finance pas des dépenses courantes comme on l'entend, ou pas les chômeurs comme on l'entend souvent dans le gouvernement, mais également de l'investissement. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'angle mort, excusez-moi, je finis là-dessus, l'angle mort, c'est que il ne faut pas oublier de dire qu'il y a eu 70 milliards de baisse de recettes publiques depuis que Macron est au pouvoir. Et alors là, on ne parle jamais des baisses d'impôts qui devaient soi-disant relancer l'activité et qui ne les ont pas relancées comme c'était prévu de le faire.
Dominique Seux.
Alors, sur ce sont les dépenses publiques qui sont supérieures à ce qu'on voit ailleurs. Sur les prélèvements obligatoires, on est aussi supérieur encore. Et par exemple, les baisses d'impôts qui ont été consenties depuis 2017 et avant, depuis François Hollande, c'est-à-dire depuis 2014, en France, c'est pour essayer de se mettre au niveau des autres pays européens. On sait aujourd'hui que les impôts de production qui sont payés par les entreprises restent 2 fois plus importants que dans les pays comparables. Donc on ne peut pas raconter une chose et son contraire. Ce qui est ennuyeux, je reviens sur l'idée de perte de contrôle. On a découvert cette semaine, par l'INSEE, que l'année dernière, l'État, donc, que les emplois publics ont augmenté...
Les
postes publics ont augmenté de 60 000 l'année dernière. Alors, évidemment, quand dans une entreprise, vous embauchez un ingénieur commercial, par exemple, c'est pour 5 à 10 ans, 2, 3 ans. Un emploi public, c'est pour 40 ans. Ça se regarde. Tout le monde a eu l'air surpris qu'il y ait eu 60 000 emplois publics. Est-ce que tout le monde s'était réjoui en disant avant, ça va rendre des bons services?
Mais ils ne sont pas tous.
On a l'impression que tout le monde l'a
vu.
Non, il y a des contractuels. On a eu l'impression que c'était découvert, que ça tombait du ciel comme ça. Quel est le pilotage? On a l'impression qu'il n'y a pas de pilotage et notamment dans l'État, il n'y a pas de pilotage, des gestions, des ressources humaines, l'éducation étant évidemment le secteur le plus emblématique de ce point de vue-là.
Thomas Porcher.
Non, c'est que vous savez, il y a un président qui a été élu en 2017 qui voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Il en a supprimé beaucoup dans les collectivités locales. Et puis, vous en supprimez, puis il y a quelques besoins. Alors, vous les réembauchez, mais vous ne les réembauchez pas sur le statut de fonctionnaire. Parce que sur les 60 000 emplois qui ont été créés dans le public, il y a des chiffres contradictoires. On parle de 8 000 postes de fonctionnaires. Donc, ça veut dire que le reste, ce serait des emplois qui sont sous contrat. Sur ces emplois qui sont sous contrat, la moitié sont des contrats précaires. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention aux chiffres qu'on utilise. Et s'il y a eu des emplois, et qui plus est des emplois précaires, c'est que quelque part, il y avait aussi des besoins.
Est-ce qu'on peut couper dans les dépenses si on doit ou si on veut espérer ramener le déficit sous les 3% du PIB d'ici 2027, ce à quoi la France s'est engagée vis-à-vis de l'Union européenne ?
Ça me paraît désormais très peu probable, parce qu'il est très peu probable. Enfin, j'ai noté que le ministre des Finances ne dit plus on va ramener le déficit en 2024 à 4,4%. Ça paraît intenable. Tout le monde a l'air de considérer que la dégradation de la note de la France, c'est-à-dire dans quelques semaines par les agences de notation, est acquise. C'est quasiment inéluctable maintenant. Il y a une contradiction du gouvernement évidente quand il a augmenté au 1er février, je crois que c'était le 1er février, de 5,3% les pensions de retraite, ça a coûté 15 milliards d'euros d'un coup. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi le 1er février, il augmente les retraites de 5,3% et 4 semaines après, il nous dit qu'il y a 20 milliards d'économies à faire. Mais il y a des choses très concrètes à faire. L'exemple, la Cour des comptes a des tiroirs entiers de possibilités d'économies. Un petit exemple, les transports médicaux. Plus 50% en 10 ans. Plus 50%.
Mais c'est aux politiques de trancher. Vous avez l'œil qui brille, Thomas Porcher, en écoutant Dominique.
Non, mais parce que, enfin, moi, quand je vois l'interview de Bruno Le Maire, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire. Par exemple, le budget à l'équilibre en 2032, c'est un objectif super. Alors là, oui, on n'a pas été à l'équilibre depuis 42 années. Ben, on n'a qu'à prendre des exemples. Les États-Unis, ils ont été à l'équilibre combien depuis 42 années? 3 fois en excédent. L'Allemagne.
Mais rassurez-vous, il n'y aura jamais d'équilibre.
Non, mais l'Allemagne, qui est l'exemple de la France depuis un certain nombre d'années, elle a été combien de fois à l'équilibre en 42 ans? 7 fois. Le Royaume-Uni, 4 fois. Donc, excusez-moi, enfin, l'excédent budgétaire, c'est pas la norme. Hein. C'est pas la norme. Donc, il faut arrêter de dire des choses comme ça. Et puis, qu'on entend encore une fois depuis une dizaine d'années.
Et il y a la question de l'emploi qui est évidemment importante. Et entre les postes publics et l'ingénieur commercial dont vous parliez, Dominique, tout à l'heure, il y a un monde nouvelle qui est peut-être importante, peut-être uniquement symbolique. Record historique du CAC 40 qui a franchi les 8000 points hier. C'est la première fois que ça arrive. La Bourse de Paris bat tous les records. Comment est-ce que vous recevez cette nouvelle, d'ailleurs? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Dominique?
Écoutez, c'est plutôt positif que les grandes entreprises françaises aient des bons résultats. C'est porté par deux secteurs. Au niveau mondial, par l'intelligence artificielle et les promesses de l'intelligence artificielle. Et au niveau français, c'est notamment le luxe. J'ai juste une incompréhension totale. C'est que les marchés financiers ont l'air totalement déconnectés de la situation géopolitique.
Oui.
Et c'est un grand mystère. Et ça laisse peut-être entendre que nous sommes peut-être dans une bulle.
Thomas Porcher. Ouais,
c'est une bonne nouvelle, mais après, vous savez que le CAC 40 a 1450 filiales dans les paradis fiscaux, et c'est peut-être que là, c'est que l'on peut trouver les solutions aux inquiétudes des dérapages du budget de l'État de Dominique.
Voilà. Merci Thomas Porcher.
Nous sommes d'accord
Dominique
pour dire que le CAC 40 a 8 points, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, c'est la surprise de 7h53.
Et c'est 7h59. 7h59 et bientôt 8h, et c'était en tout cas une bonne manière de conclure le débat écho de la semaine. Merci messieurs.